Lettre 2.
Cette lettre devrait être méditée plutôt que lue. Je suis le Christ. Pendant que j'agis depuis les royaumes suprêmes de la conscience créatrice divine, votre monde baigne dans mon influence. On pourrait dire de façon imagée que je suis en conscience aussi distant de votre monde que votre soleil l'est de la terre. Cependant, lorsque vous m'invoquez sincèrement, je suis là, aussi proche de vous qu'il est nécessaire pour vous aider. Beaucoup de gens seront incapables d'accepter ces lettres, c'est qu'ils ne sont pas encore prêts. Certains tenteront d'étouffer leur existence, l'enseignement qu'elles apportent menaçant leur manière de vivre ou leur religion. Ils s'y évertueront en vain. L'opposition décuplera l'impact des lettres. D'autres accueilleront ces lettres avec joie. En leur âme, ils savent que les religions du monde voilent la vérité, la réalité de l'existence. Ces gens-là prospéreront et sauveront le monde de l'autodestruction. Je poursuis à présent la narration de mon autobiographie, entamée dans ma précédente lettre. Je relate quelques anecdotes liées à mes débuts publics d'enseignant et de guérisseur, afin de donner plus de vie à mes comportements juvéniles et aux circonstances qui me permirent de spiritualiser ma conscience humaine. Représentez-vous maintenant la Palestine au temps où je vivais sur Terre. Voyez combien les gens, alors endoctrinés par les croyances et les rites traditionnels juifs, purent être la proie de conflits intérieurs en recevant mes enseignements. Ces conflits viennent du fait que les évangélistes se sont montrés incapables de rapporter avec exactitude tout ce que j'ai tenté de leur enseigner. Les évangiles font de fréquentes références aux paraboles que j'ai utilisées pour décrire la réalité du royaume des cieux, ou royaume de Dieu, peu importe le nom qu'utilisent les évangélistes. Mais personne n'a jamais tenté de saisir le sens profond de ces paroles, de sonder la rhétorique ou de pénétrer la signification spirituelle des expressions « royaume de Dieu » ou « royaume des cieux ». Plus j'évoquerai les sermons que j'ai délivrés à la foule, mieux vous comprendrez, à la lumière de ce que j'ai vécu dans le désert et de votre connaissance actuelle de faits scientifiques, ce que je tentais d'enseigner à cette époque. Comme mon succès fut particulièrement restreint, une autre tentative doit impérativement avoir lieu au début de ce nouvel âge, ce nouveau millénaire. C'est en effet sur ma connaissance spirituelle suprême et unique que l'ère nouvelle érigera ses fondations et se développera. Pour le maître que je suis, comme pour d'autres maîtres, suprasensible, mentalement et émotionnellement voué à la recherche de la vérité existentielle, il fut autrefois essentiel, et cela reste important aujourd'hui, d'inventer des mots en venant sur Terre, afin de décrire à ses habitants, prisonniers des mots, ce qui existe dans la dimension créatrice universelle, dans un état non matérialisé. Sans de tels maîtres inspirés, les habitants de la Terre resteraient ignorants de tout ce qui se trouve au-delà de la matière et qui attend d'être contactés personnellement, vécus, absorbés, pour permettre l'évolution spirituelle future. Sachez encore que si la Bible, comme on le dit, est le livre le plus lu au monde, elle a largement rempli son but dans sa forme présente. Tel qu'il est, le Nouveau Testament ploie sous les mauvaises interprétations et décourage l'évolution spirituelle. Il est temps d'avancer maintenant dans un nouveau royaume de perception mystique et de compréhension. Il ne m'est plus possible de redescendre dans un corps humain pour parler au monde. En outre, mon ministère s'étend à d'autres dimensions, aussi ai-je formé une âme réceptive à recevoir et à transcrire. C'est le mieux que je puisse faire pour vous parler personnellement. J'espère que vous pourrez accueillir mon message et accepter que je ne puisse revenir en personne. Toute erreur éventuelle de transcription est effacée. Soyez-en assurés. Si je mentionne quelques incidents et guérisons dans les pages qui suivent, accordez-leur une importance toute relative. Ils sont véridiques, mais je les relate uniquement pour vous aider à comprendre leur réelle signification spirituelle. Tout en lisant, établissez un lien entre les conditions de vie qui régnaient il y a 2000 ans et votre époque actuelle. Considérez, je vous prie, la personne de Jésus comme un exemple de ce que peut accomplir tout être humain lorsqu'il est finalement prêt et travaille à faire advenir le royaume des cieux sur terre. Bien que les habitants actuels de la planète soient, pour employer votre vocabulaire, « civilisés », imbus de la somme de leurs connaissances et de leurs apprentissages modernes, experts en matière relationnelle, les gens de ce temps-là étaient au fond exactement comme vous. Ils étaient entièrement mus et contrôlés par leurs impulsions jumelles d'attirance, rejet, désir, répulsion, tout comme vous. Ils aimaient, haïssaient, critiquaient, condamnaient, calomniaient, médisaient, ambitionnaient d'atteindre le haut de l'échelle sociale, méprisaient les ratés, couchaient à droite et à gauche, comme vous dites aujourd'hui, et ridiculisaient ceux qui étaient en soi peu différents d'eux. Pour vous aider à bien comprendre et à pénétrer cette époque où je vivais sur Terre, ma conscience s'est abaissée jusqu'à votre plan d'existence terrestre pour revivre en la personne de Jésus les émotions et événements qui me touchèrent. Quand je quittais le désert et marchais vers mon village de Nazareth, j'étais encore exalté et la connaissance qui venait de m'être révélée si glorieusement dans le désert me remplissait d'une joie exubérante. Je me concentrais totalement sur ce que j'avais appris. Et si mes pensées s'égaraient vers mes pensées négatives d'autrefois, je me tournais rapidement vers le Père, afin de recevoir l'inspiration et la détermination suffisantes pour les surmonter. Ainsi, je retournais constamment vers la lumière de la conscience et de la compréhension. Quelques personnes me regardèrent de travers en voyant ma joie et mon apparence sale et hirsute. Était-ce la boisson qui me rendait si joyeux ? D'autres me regardèrent d'un air dégoûté. Au lieu de réagir comme autrefois avec colère, je me souvins que j'étais béni d'avoir reçu des visions et une connaissance qu'ils ne pouvaient même pas imaginer. Je les bénis et priai pour que leur vision intérieure s'ouvre comme la mienne, et je continuais en paix mon chemin en direction de Nazareth. Je croisais cependant des villageois qui compatirent au vu de mon état pitoyable et se hâtèrent d'aller me chercher du pain et même du vin pour m'aider à poursuivre ma route. Il y avait toujours quelqu'un qui m'offrait le gîte pour la nuit. La vie, Père, pourvoyait vraiment à tous mes besoins et me fournissait toute la protection voulue. Durant le trajet, je ne dis mot de mes semaines passées dans le désert. Je sentais que le temps n'était pas encore venu. Finalement, j'atteignis Nazareth où j'habitais, et les villageois se moquèrent ouvertement de moi, se montrant du doigt ma saleté et mes habits en loques. « Sale fainéant » furent les mots les plus aimables qu'on voulut bien m'adresser. J'arrivai chez ma mère en redoutant de sa part une réaction encore plus vive que celle de ses voisins, lorsqu'elle me verrait si maigre, décharné, les yeux battus, les joues creuses, le visage brûlé par le soleil, les lèvres crevassées, la barbe longue et hirsute. Mes habits ! Elle allait être horrifiée en voyant mes habits déchirés et en lambeaux, dont on ne distinguait même plus la couleur sous la poussière du désert. Je grimpai les escaliers et pris mon courage à deux mains pour affronter la furie de ma mère. Lorsque je frappai à la porte, ma sœur vint ouvrir. Elle me regarda, bouche bée, les yeux exorbités, puis me claqua la porte au nez. Je l'entendis courir vers le fond de la maison en criant « Maman, viens vite! Il y a un vieux bonhomme tout seul à la porte !» Je pus entendre ma mère la sermonner à voix basse tout en se hâtant. Elle ouvrit brusquement la porte et le choc la laissa clouer sur place. Je souris, mais elle resta un moment à me détailler de haut en bas, de plus en plus horrifiée à l'idée que cet homme à l'aspect épouvantable était bel et bien son fils Jésus, qui n'en faisait toujours qu'à sa tête. Je tendis la main vers elle en disant « Je sais que je te cause du chagrin, mais pourrais-tu m'aider ?» Immédiatement, son expression changea et m'attirant à l'intérieur, elle referma la porte. « Vite !» dit-elle à ma sœur effrayée, « cesse de crier et mets de l'eau à bouillir. Ton frère meurt de faim. Peu importe les ennuis qu'il s'est encore attirés, il est de la famille. Il faut le soigner. » Délicatement, elle m'aida à ôter mes habits et me fit pencher au-dessus d'un baquet d'eau et me lava. Elle me nettoya, me coupa la barbe et les cheveux et passa, avec précaution, un baume bienfaisant sur mon corps et mes lèvres. Nous gardâmes le silence l'un et l'autre. Je savourai l'amour dont elle m'entourait et tentai de lui montrer ma gratitude par des manières plus douces et plus tendres. M'ayant aidé à revêtir des habits propres, elle me fit asseoir devant un repas frugal de pain, de miel et de lait. À contre-cœur, elle me servit du vin pour me redonner des forces, mais il était visible qu'elle pensait que c'était le vin qui était la cause de mon état. Puis elle me conduisit vers un lit et me recouvrit d'une couverture. Je dormis pendant plusieurs heures et me réveillai frais et dispo par une matinée ensoleillée qui illuminait la chambre à travers la fenêtre. J'avais maintenant hâte de parler à ma mère, de lui dire que j'étais vraiment un messie, mais pas comme les juifs l'imaginaient. Je pouvais sauver les gens des conséquences néfastes de leurs péchés. Je pouvais les aider à recouvrer la santé, l'abondance, la satisfaction de leurs besoins, parce que je pouvais maintenant leur enseigner exactement comment le monde avait été créé. Pendant que je tentais de lui raconter mon expérience, elle se montrait de plus en plus excitée et enthousiaste. Elle bondit de son siège et voulut courir au dehors pour le raconter aux voisins. Son fils était vraiment le Messie. Il faudrait qu'ils entendent comme il parlait bien maintenant, et il avait jeûné dans le désert. Mais je l'arrêtai aussitôt. Je lui dis que je ne lui avais pas encore raconté ce qui m'avait été révélé. L'une des choses les plus importantes que j'avais apprises était que les Juifs orthodoxes étaient complètement dans l'erreur en croyant en un Dieu vengeur. Il n'existait rien de tel. Ces mots l'effrayèrent et la perturbèrent. Elle s'exclama : « Et comment Jéhovah va-t-il gouverner le monde, nous rendre meilleurs et nous faire écouter ses prophètes s'il ne nous punit pas ? Es-tu maintenant devenu si arrogant que tu vas dire aux grands prêtres ce qu'ils doivent faire, alors que cela leur a été transmis depuis le temps de Moïse ? Vas-tu jeter encore plus d'opprobre sur cette maison ?» Elle se mit à pleurer, disant avec colère : « Tu n'as pas changé du tout, tu n'as changé qu'en parole. Tu ne me crées que des soucis, comment ai-je pu croire que tu étais un messie ? Tu ne feras qu'amener les gens à de plus grands tourments avec tes idées bizarres. » Mes frères, entendant ces lamentations, accoururent en faisant mine de me jeter dehors. Comme je ne voulais pas d'ennui, en geste de conciliation, j'offris de partir. Si c'était là la réaction de ma mère, je pouvais être sûr que tous les autres réagiraient ainsi à ce que je voulais leur dire. Je réalisais que j'avais besoin d'un temps de repos et de silence absolu qui me permettrait de rassembler mes pensées et mes expériences. Je devais prier pour recevoir de l'inspiration quant à la manière d'aborder le mieux possible les Juifs avec mon message de bonne nouvelle. J'étais sûr que la vipère répondrait à mes besoins et que je trouverais un logement adéquat quelque part. Même si mon attitude apparemment arrogante rendait ma mère furieuse, celle-ci n'en était pas moins déchirée par son amour pour moi et la compassion que lui inspirait mon extrême maigreur. Elle rejetait tout ce qui lui semblait avoir du prix à mes yeux, ma révolte, mon mépris pour la religion juive, mon attitude contestataire envers les autorités, mon entêtement et mon arrogance, mais elle m'aimait et tremblait de me voir cette fois me mettre dans des difficultés vraiment inextricables. Elle admonesta mes frères, leur enjoignant de se taire et se tourna vers moi. « Tu peux rester jusqu'à ce que tu ailles mieux. » « Pendant que tu es là, ajouta-t-elle, je pourrais peut-être te faire entendre raison. Je peux te le dire maintenant, si tu sors dans la rue et te mets à parler comme tu m'as parlé, tu reviendras dans un état encore pire. Les bonnes gens te cracheront au visage et te jetteront des ordures. Tu es une honte pour ta famille. » Et donc, malgré sa colère, je ris, la remerciai et l'embrassai affectueusement. Heureux, je restai avec elle, sachant pertinemment que sa colère cachait beaucoup d'inquiétude pour moi. Elle me nourrit bien et me confectionna de beaux habits neufs. Je me réjouissais de tout ce qu'elle faisait pour améliorer mon apparence, car je savais que pour évoluer librement parmi les riches et les pauvres, je devais être habillé correctement, porter des vêtements décents. Parfois, la nourriture manquait à la maison. Alors, puisant dans la puissance de mon père, je réapprovisionnais ma mère sans rien dire. Elle non plus. Je savais qu'elle se demandait tristement si, à toutes mes mauvaises habitudes, j'avais encore ajouté celle de voler. Puis, un jour, elle me surprit, un pain encore chaud à la main, alors qu'elle savait que je n'étais pas sorti de la maison pour l'acheter et que le four n'avait pas été utilisé ce jour-là. Elle ne dit rien, mais me jeta un long regard songeur. Je vis alors son attitude changer. Elle n'était plus aussi sûre d'elle. Elle reconsidérait son attitude envers moi, ainsi que la véracité de mes déclarations. Que lui est-il vraiment arrivé dans le désert ? Comment a-t-il pu faire un pain sans farine, sans levain et sans feu? Que signifie tout cela? Est-il le Messie? Puis mon frère se coupa la main. Il souffrit beaucoup quand la plaie s'infecta. Il me laissa imposer les mains sur sa blessure en priant calmement. Je voyais qu'il sentait la puissance s'écouler dans sa main parce qu'il me regardait bizarrement. La douleur a disparu, dit-il brièvement. Il s'éloigna d'un air agacé et je sus qu'il était mécontent que j'aie pu le soulager de sa douleur. Je sentis sa jalousie. Ma sœur se brûla la main et un autre de mes frères se plaignit de forts maux de tête. Je les guéris tous deux. Mes frères et sœurs se mirent à plaisanter à propos de mes pouvoirs magiques. Ils me demandaient quel mal je pourrais leur faire s'ils me mettaient en colère. La tension monta dans la maison et j'en fus triste pour ma mère qui tenait tant à la paix du foyer. Mais elle voyait des changements dans mon comportement et en fut réconfortée. J'étais plus tranquille. Je maîtrisais mes emportements, contenais mon énergie, réprimais mon impatience, ne me disputais plus. J'étais devenu plus attentif. Je la laissais ronchonner comme peuvent le faire les femmes, l'aider dans la maison en réparant les meubles abîmés et aller dans les collines, les fermes éloignées, pour trouver les fruits et légumes dont elle avait besoin. J'en vins à l'aimer tendrement et avec compassion, comme on devrait aimer une mère. Un jour, elle se risqua à me demander. Tu dis toujours que Jéhovah est un mythe? Job a dit que si Jéhovah devait retenir son souffle, toute chair s'effondrerait. Voilà le Jéhovah en qui je crois et que j'ai vu. Personne n'a vu Jéhovah, dit-elle fermement. J'ai vu ceux qui créent toutes choses, répliquai-je tranquillement. Je l'appelle le Père. Parce que c'est l'amour parfait, un amour plus parfait que l'amour maternel, ajoutai-je en lui souriant. Il œuvre en toutes choses, à travers et pour toute sa création. C'est le Père en moi qui t'a fourni ce dont tu avais besoin dans la maison et qui a guéri mes frères et sœurs si rapidement. Je vis qu'elle commençait à comprendre vaguement ce que je disais. Qu'en est-il du péché ? Demanda-t-elle. Le péché n'existe pas tel que nous le comprenons. Nous naissons pour agir comme nous le faisons. Nous devons trouver le moyen de surmonter nos pensées et sentiments humains, car ils nous séparent de la protection du Père et nous apportent maladie et misère. Lorsque nous aurons appris à surmonter l'ego, nous entrerons dans le royaume des cieux.